Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, emplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Prions, Dieu, qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation. Pour le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il.
Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, Saint Jérôme. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bon, je vais arrêter d'avoir mon téléphone. Ne soyez pas dérangé. Voilà, asseyez-vous. Bon, avant que j'oublie. Donc il y a eu une famille qui a annulé pour la petite retraite que je devais donner ici. Donc deuxième semaine de juillet, il devait venir à 3. J'avais 4 places, donc j'ai 3 places de nouveau pour la retraite de juillet du 9 au 14 juillet. Donc s'il y en a qui sont intéressés, hommes ou femmes, ou grands adolescents, au moins à partir de 17 ans minimum, eh bien contactez-moi, je peux prendre le téléphone. Ça, c'est mon adresse email, et puis je vous inscrirai pour cette retraite. Alors, nous en sommes au deuxième fichier maintenant. Donc, les fichiers sont groupés par des groupements de 5 chapitres. Donc, on avait un premier fichier sur Saint Matthieu dans le site d'Âme Marie. Il y avait chapitre 1 à 5 de Saint Matthieu. Maintenant, c'est le deuxième fichier, chapitre 6 à 10. Donc, vous avez également un polycopier de 44 pages. Alors, nous allons commencer avec le chapitre 6. Je conseille aussi, une chose que j'ai oublié de vous dire, je conseille beaucoup à ceux qui écoutent sur Internet, de préparer un peu le cours. Il y a deux façons de préparer ces cours, parce que c'est des cours qui demandent bon, du travail à part celui qu'il donne, mais aussi du travail à part celui qui les reçoit. Donc je vous conseille au moins de relire le polycopier correspondant au dernier cours. Comme ça, ça vous permet de vous remettre un petit peu dans le train avant de reprendre le voyage. Et puis aussi, je vous conseille de relire juste avant le cours, la journée qui précède, par exemple, le texte de l'Évangile qui correspond à ce qu'on étudie, par exemple en ce moment, de lire le chapitre 6 de Saint Matthieu. Comme ça vous permet de vous préparer. Donc en fait, le but de la manœuvre, c'est de comprendre en quelque sorte le texte sacré qui vient de l'Esprit Saint avec l'explication des Pères. Donc, ce qu'il faut, c'est à la fin du cours, relire au moins le soir par exemple ou le lendemain, relire tranquillement la partie des versets qu'on a étudiés en cours. Comme ça vous permet de les comprendre un peu mieux. En principe, du cours, c'est ça. Et il faut s'obliger à travailler un petit peu. Si on se contente d'écouter le cours, et puis après on attend une semaine, et puis la semaine suivante on entend le cours suivant, on n'arrive pas forcément à faire la jonction entre les deux. Et comme il faut répéter à peu près 70 fois les choses pour que les choses rentrent dans les cerveaux, c'est en principe c'est le nombre. Pour les enfants, moins, avec les adultes, c'est peut-être un peu moins, mais un peu de moins. On a tous beaucoup de mal à se rappeler des choses. Je pense qu'il faut s'obliger à travailler. Alors, page 1 du deuxième fichier, Saint Matthieu, chapitre 6. Gardez-vous de faire vos œuvres de justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Donc, nous sommes toujours dans le sermon sur la montagne de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ça, c'est des textes extrêmement important, surtout sur la vertu de charité. Notre Seigneur va commencer déjà à préparer un peu cette espèce de révolution dans le bon sens du terme qui va provoquer dans les âmes. Hein. Au début, c'était tout rouler sur la terre pour jouir au maximum, jouir sans entrave, comme disaient les étudiants communistes de mai 68. Et bien, notre Seigneur Jésus-Christ va expliquer que toutes les créatures sur la terre sont simplement des moyens pour nous aider à atteindre le ciel. Donc, gardez-vous donc de faire vos œuvres de justice devant les hommes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà ce que disent les pères. Si le cœur dans lequel se glisse cet ennemi est pur, le juste reconnaît bientôt qu'il est sollicité par un esprit étranger. Si au contraire, le cœur est rempli d'iniquité, il ne se rend pas facilement compte des suggestions du démon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelque chose de très important. En fait, c'est que si notre âme vit dans l'impureté de façon habituelle, elle va finir par devenir, vouloir résister à ces miasmes impurs. Et il faut absolument que l'impureté ou les péchés en général fassent choc sur une âme. Sur une âme qui est en état de grâce, lorsque le démon vient proposer une impureté ou autre chose, quelque chose contre la loi du bon Dieu, il faut que ça fasse choc. Pour que la personne se dise non, ça n'a pas question. Et on voit très bien que c'est comme ça que travaille le démon aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à force de boire l'iniquité comme l'eau, eh bien, les gens modernes, même parfois dans les milieux catholiques, les gens modernes finissent par plus réagir. Mademoiselle Quenette avait une belle phrase, elle disait: malheur à celui pour qui le pur et l'impur est devenu chose normale. Vous voyez? Et elle disait, parfois elle avait des enfants qui. Des jeunes adolescents qui voulaient, les parents les amener à l'école de la Perraudière, ou pour les filles à l'école de Malvière, à l'époque c'était Malvière, et des enfants qui avaient déjà été contaminés par surtout l'éducation sexuelle à l'école. Et Mademoiselle Quenette disait: je ne sais plus comment rattraper ces gens-là, c'est trop tard. Bon, bien sûr, le bon Dieu peut faire du miracle, mais ça relève vraiment du miracle. Et je l'ai déjà dit, expliqué une fois, je crois, dans un cours, je ne sais plus si je l'ai fait dans celui-là, mais c'est pour ça qu'elle demandait, surtout pour les petites filles, elle voulait essayer de juger l'âme de la petite fille. Elle voulait absolument que les enfants qui rentraient dans l'école, surtout les petits, aient encore cette pureté. Qu'elles ne soient pas encore contaminées par les miasmes du monde moderne. Et entre autres, pour les petites filles, elle disait aux parents: vous m'amenez votre fille pour qu'on puisse la voir un petit peu, discuter un peu, vous puissiez visiter l'école, voir un peu l'école, et vous lui demandez de m'amener sa poupée préférée. Et simplement avec la poupée qu'amenait la petite fille, eh bien elle pouvait prendre une décision de savoir si elle la prenait ou non. Et elle disait, si la petite arrivait avec une poupée Barbie, par exemple, c'était trop tard. Par contre, si la petite arrivait avec un petit baigneur traditionnel, ça veut dire que la loi naturelle n'était pas encore détruite chez elle. Donc elle avait encore la compréhension de ce qu'est une petite femme, de ce qu'est une petite fille, qu'elle va devenir un jour une mère de famille, et donc il faut qu'elle se prépare en s'amusant avec, en jouant à la maman, en jouant à éduquer les petits-enfants. Et c'est ce qui se passe avec les petites filles qui sont encore saines. Par contre, si la petite est déjà complètement contaminée par la télévision, Internet, et bien elle va vouloir jouer au, déjà à moitié prostituée, et elle va suivre ce que représente donc une poupée Barbie. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il faut essayer de voir dans quel état est mon cœur. Il ne faut pas se décourager non plus. Parmi les gens qui m'écoutent, il y a peut-être des gens qui ne sont pas encore catholiques ou des gens qui viennent de très loin. Il ne faut pas se décourager parce que le bon Dieu peut faire des miracles. Mais en même temps, il faut absolument... Il faut nettoyer notre âme de telle façon que notre âme soit de nouveau capable de retrouver sa force virginale. Vous voyez? Et c'est possible avec la grâce du bon Dieu, même pour ceux qui ont fait les 400 coups. Pourquoi? Parce que le bon Dieu est tout puissant. Le bon Dieu est tout puissant. Mais je pense que là, c'est un petit peu ce que veulent dire les pères. Si le démon arrive dans une âme, et que l'âme est déjà complètement contaminée par toute une série de péchés, bon, l'iniquité proposée par le démon va rentrer comme un fil dans le beurre. Et au contraire, si la personne n'est pas encore corrompue, eh bien, il va provoquer une réaction salutaire. Je prends toujours comme comparaison, une comparaison historique, bon, c'est peut-être pas une très bonne comparaison, mais je pense que ça aide les gens à comprendre. Prenez les deux révolutions américaines de 1776 et de France 1789. C'est exactement la même révolution. C'est les mêmes principes. Presque c'est les mêmes hommes. Donc c'est quoi? C'est l'humanisme, c'est les idées de la franc-maçonnerie, c'est liberté, égalité, fraternité. Eh bien, la révolution de 1776, qui a précédé historiquement aux États-Unis donc la révolution française, eh bien, est rentrée dans les âmes américaines sans aucun problème. C'était une révolution non sanglante. Parce que les premiers francs-maçons ont présenté leurs idées avec les premiers fondateurs des États-Unis. Et comme ils étaient tous protestants, tous francs-maçons, et tous imprégnés de ces idées-là, et que les gens qui étaient là-bas, pour la plupart d'entre eux, sauf quelques exceptions comme les Irlandais ou les Polonais, n'étaient pas des catholiques, étaient des protestants. Donc les idées de la Révolution sont passées sans aucun problème. Il n'y a même pas eu à se battre, il n'y a pas eu. C'est pour ça que les gens nous disent, souvent aux États-Unis, vous voyez, regardez la révolution, tout s'est bien passé chez nous. Il n'y a pas eu d'effusion de sang comme vous. Vous, c'est épouvantable. Regardez-moi ça, on a décapité je ne sais pas combien de personnes, et c'était des rivières de sang partout. Chez nous, tout s'est très bien passé. Et c'est ça qui est grave, justement. C'est précisément tout s'est bien passé. Pourquoi ? Parce que plus personne réagissait. Au contraire, en France, où il y avait des vieilles habitudes catholiques, eh bien, la révolution a dû passer en étranglant, en coupant en morceaux et en détruisant des centaines de milliers de personnes. Justement parce que la ferveur catholique était un obstacle. Et on le voit très bien dans les endroits où la foi catholique était beaucoup plus forte, comme en Bretagne et comme surtout en Vendée. Donc pourquoi en Vendée, il y a eu la guerre des Vendéens qui ont résisté à la Révolution? Pourquoi? C'est parce qu'il y avait eu toute la préparation faite par Saint-Louis-Marie-Guillaume de Montfort. Et ça, c'est ce que veulent dire ici les pères. Donc ce texte me semble important. Donc, Adam, esclave de ses passions, disent les pères, n'est pas capable de veiller sur les mouvements de son cœur. C'est un petit peu une autre comparaison qu'on peut prendre, c'est que pour pouvoir se rendre compte que le démon est en train d'essayer de forcer la porte pour rentrer dans la maison ou rentrer par une fenêtre qui est laissée entrouverte ou qui va essayer de forcer un carreau, je ne sais pas trop quoi, pour rentrer dans la maison, il faut être dans le calme, il faut être dans le silence. À ce moment, on entend le bruit. Si la maison est tout le temps dans le bruit, eh bien, on n'entend pas. On n'entend pas le voleur qui est à la fenêtre, qui est en train avec un pied de biche, d'ouvrir une porte ou une fenêtre par la force. Et on n'entend absolument pas ce qui se passe. Pourquoi ? Parce que notre cœur est habitué à accueillir tous les bruits du monde. Et d'où cette phrase des pères, un âme esclave de ses passions n'est pas capable de veiller sur les mouvements de son cœur. Hein ? Alors, attention, ça ne veut pas dire qu'il faut pour autant se décourager. Je pense qu'il faut, là, pour se protéger, impérativement bien suivre cette règle qui est très connue, justement la règle des plus connues de Saint Ignace de Loyola dans ses exercices Saint Ignace. C'est la règle numéro 5, dans laquelle il dit bien qu'en temps de désolation, en temps de découragement, en temps de péché contre l'espérance, quand tout va mal, quand on a vraiment le moral dans les chaussettes, comme on dit vulgairement, eh bien, il faut ne jamais, jamais prendre une décision dans ces cas-là. Toujours attendre. Et ça, c'est une grande protection. Et on le voit très bien dans le monde moderne, comment le monde moderne va pousser les gens à prendre des décisions tout de suite, à n'importe pièce. Il faut acheter ça, c'est nouveau, il faut acheter. Alors, il y a ces lumières qui s'allument et qui s'éteignent, qui attirent les âmes, surtout des personnes qui achètent dans les maisons, un peu comme les flammes d'un feu attirent les moustiques, quoi. Vous voyez, alors les moustiques viennent tourner autour de la flamme, ils sont tout contents parce que c'est chaud, ça crépite, c'est beau, il y a la lumière et tout, puis autour d'une lampe électrique c'est la même chose, puis de temps en temps il y a l'aile d'un petit moustique ou d'une petite mouche qui va toucher la lampe chaude, on entend un psst, et puis c'est fini, terminé, on a une mouche qui est brûlée et qui vient de mourir. Vous voyez, donc je crois que c'est quelque chose de très important. Hein. Bon, je vous lis ces textes qui sont magnifiques. Je simplement ici fais un résumé de ces textes. Alors voilà ce deuxième texte. Tous ces textes sont très beaux. Il faut vraiment des textes qui sont presque utiles pour la méditation tellement ils sont beaux. Considérez celui de qui vous attendez la louange et croyez que vous agissez pour Dieu. Autrement, il aurait pour vous un profond mépris. Or celui qui recherche le regard des hommes avec une volonté pleine et entière agit évidemment pour les hommes. Si au contraire une pensée de vanité s'élève dans votre cœur et y fait naître le désir de paraître aux yeux des hommes, mais que la partie intelligente de votre âme s'oppose à ce désir, on ne peut dire que vous agissez pour les hommes, car cette pensée est une pensée de la chair, mais c'est le jugement de votre âme qui a déterminé votre choix. Alors ici, les pères font allusion à ce qu'on appelle la vaine gloire. Les pères de l'Église, c'est un peu spécial. Les pères de l'Église, en général, quand ils parlent de l'orgueil, ils utilisent un autre terme. Ils utilisent le mot de vaine gloire. Et vous allez voir qu'il y a des textes très forts des pères de l'Église sur ce sujet. Saint Basile avait une très belle expression, il appelait la vaine gloire le voleur des bonnes œuvres. Faites une œuvre magnifique, mais si vous le faites, si votre intention n'est pas pure, tout est gaspillé. Le Saint Curé d'Ars avait une très belle image pour comparer quand il parlait de la vaine gloire, il disait c'est comme une chenille qui passait sur une magnifique rose. C'est un bouquet de rose. La chenille est passée, a laissé la trace gluante sur toutes les pétales de la chenille, de la rose, des roses, et tout est gâché parce que c'est à moitié mangé par la chenille, et puis c'est plus beau, quoi. Il manque quelque chose. Et bien là, c'est pareil. Et donc il faut faire attention de travailler pour le bon Dieu. Vous voyez, on dit que le démon est le singe de Dieu. Ceci le voleur de la gloire. Il y a, le but du démon, c'est de se faire passer pour Dieu. De se faire passer. Et une des façons qu'il va utiliser pour se faire passer pour Dieu, c'est de voler la gloire qui est réservée à Dieu seul. Et c'est ça qu'on appelle la vaine gloire. C'est-à-dire que quand il voit que quelqu'un fait une belle œuvre, une bonne œuvre, qu'il y a même des âmes qui se convertissent, le démon va tout de suite intervenir de façon plus ou moins directe, parfois de façon très camouflée, pour arriver à voler les fruits de ses bonnes œuvres. Entre autres, pour déterminer, pour pousser la personne qui a accepté, qui a fait ses bonnes œuvres, de faire tomber dans l'orgueil, la vaine gloire. Une fois qu'elle est tombée dans l'orgueil, eh bien, le démon a volé les bonnes œuvres de cette personne. Donc voilà ces textes, ces troisième paragraphe de la page 1 du fichier, du chapitre 6 de Saint Matthieu. Volons loin de la vaine gloire, qui gâche toutes les bonnes œuvres. Elle est l'ennemi de nos âmes. La mythe des vertus, la ruine de tout ce que nous faisons de bon, elle qui colore le poison avec la mielleuse mixture de sa tromperie et qui présente aux âmes sa coupe mortelle que nous allons boire avec avidité sans en être jamais rassasiés, comme la gloire humaine paraît douce pour ceux qui n'en ont jamais fait l'expérience. Vous voyez, c'était ces textes qui sont magnifiques. Vous voyez, la mythe des vertus, comme si vous voulez une belle chemise que vous avez laissée dans une valise par exemple, et puis elle semble propre, elle semble impeccable, vous voulez la réutiliser, et puis il y a une mythe qui est rentrée dans la valise et qui a fait des trous dans la chemise est toute belle, et bien elle est pleine de trous, et donc un matin il n'y a plus qu'à l'acheter. Et bien c'est un petit peu la même chose, donc il faut faire très très attention, d'où l'importance de ce qu'on appelle l'offrande de la journée. Oui. Une des meilleures façons d'éviter la vaine gloire, c'est dès le matin s'obliger à faire l'offrande de la journée. Vous pouvez utiliser la très belle formule qui avait été composée par le pape Pie XI pour les enfants de la cause de l'Eucharistie, mais qui est valable aussi pour les adultes. Hein. Divin cœur de Jésus, je vous offre par le cœur immaculé de Marie mes prières, mes œuvres, mes souffrances toute cette journée en réparation de mes offenses et à toutes les intentions pour lesquelles vous immolez continuellement sur l'autel. Je vous l'offre pour telle ou telle intention. Vous voyez ? Et à ce moment, on dit voilà, au bon Dieu, tout ce que je vais faire aujourd'hui, toutes mes actions, toutes mes œuvres de la journée, eh bien, je veux que tout soit fait pour votre plus grande gloire. Et à ce moment-là, l'intention est déjà travaillée pour notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, parce que le démon, ce qu'il faut comprendre, c'est que le démon, quand il ne peut pas arriver à provoquer une œuvre mauvaise, il va avoir du mal parfois qu'il y a un catholique qui est fervent, il va essayer de changer l'intention. Parce que le péché est d'abord de l'intention. Et vous pouvez avoir des gens qui font des bonnes œuvres avec une intention mauvaise. Si l'intention est mauvaise, la bonne œuvre, elle ne vaut rien du tout. Vous voyez ? Donc on peut même parfois faire du bien, donner par exemple de l'argent aux pauvres, ou aider les gens pauvres dans un milieu social par exemple. Mais si vous le faites par vaine gloire, ben, non seulement à chaque fois vous faites pratiquer la vertu de charité, non seulement vous ne pratiquez pas une vertu pour vous, mais à chaque fois vous augmentez votre quantité de péché. Parce que l'intention est mauvaise, elle va tout gâcher. Et il faut se rappeler ces expressions, le voleur des bonnes œuvres, la mythe des vertus, la coupe mortelle, que nous allons voir avec avidité sans en être jamais rassasiés. Donc, il faut expliquer ça, c'est surtout aux enfants, pas trop aux enfants, mais plus aux adolescents, qui ont trop tendance, évidemment, parce qu'ils ne sont pas encore bien formés, ils ne sont pas encore des adultes, qui ont trop tendance à faire les choses pour eux-mêmes, voyez, pour impressionner la galerie, comme on dit. Voyez. Et bien, il faut arriver à travailler pour le bon Dieu. Deuxième partie. Alors donc, c'est les versets 2, 3 et 4 de Saint Matthieu. Alors donc, que vous faites l'aumône, ne sonnez pas de la trompette devant vous comme les hypocrites dans les synagogues ou dans les rues, pour être honorés des hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont déjà reçu leur récompense. Mais quand vous faites l'aumône, que votre main gauche ne sache point ce que fait votre main droite, afin que votre aumône soit dans le secret, et votre Père qui voit dans le secret vous le rendra. Et donc là, je suis le plan de Saint Thomas d'Aquin. Donc Saint Thomas d'Aquin, dans la chaîne d'or, regrouper les versets par série. Donc il va mettre les deux premiers versets, puis par exemple ici les trois au premier verset, puis ensuite les versets 2 à 4. Et donc je suis la même règle, et puis je vais chercher dans les pères, surtout dans Cornelius et Lapidé, mais ce qu'on dit les pères, ou dans le père Thierrier, ce qu'on dit les pères sur le sujet. Alors, on voit ici, le bon Dieu va parler, notre Seigneur va parler des trois vertus qui ont une force toute divine, disent les pères, pour s'opposer à trois vices contre lesquels il a soutenu lui-même les assauts de la tentation. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ a été tenté trois fois. Les trois tentations de notre Seigneur Jésus-Christ représentent justement toutes les tentations du monde moderne. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ a d'abord été, je rappelle des choses qu'on a déjà expliquées auparavant, donc derrière ces tentations, derrière cette triple tentation, donc il y a, si vous voulez, trois grandes vertus. En réparation des péchés de la concupiscence des yeux, c'est l'aumône. En réparation de la concupiscence de l'orgueil, c'est la prière. Et contre la concupiscence de la chair, c'est le jeûne. Et donc, tout le sermon sur la montagne va tourner autour de ces trois choses. L'aumône, la prière et le jeûne. Donc l'aumône pour rappeler aux gens la nécessité de ne pas être trop attiré par les choses du monde. Concupiscence des yeux. L'orgueil, cette fois-ci, je veux dire la prière, cette fois-ci, pour ramener les choses à leur juste proportion. On va expliquer ça avec les textes des pères. Et enfin, la concupiscence de la chair qui va être bridée par le jeûne. Donc, le Christ oppose trois vertus d'une force toute divine, l'aumône, le jeûne et la prière, aux trois vices contre lesquels il a soutenu lui-même les assauts de la tentation. Le Sauveur a combattu pour nous, en effet, contre la sensualité dans le désert, contre l'avarice sur la montagne, contre la vaine gloire sous le haut des temples. Donc il faut savoir que ces trois choses, sensualité, avarice, vaine gloire, représentent en quelque sorte un résumé de ce que propose le démon. Bon, il va couvrir ces tentations avec des couleurs diverses. C'est comme si une mauvaise chose, il est content de changer la couleur. Vous voyez, il est content de changer la couleur pour qu'on ait l'impression que c'est quelque chose de nouveau. Mais en fait, c'est toujours les mêmes idées. C'est toujours les trois concupiscences. Hein. Concupiscence des yeux, concupiscence de la chair et concupiscence de l'orgueil. Alors, c'est intéressant d'essayer de se poser la question. On peut se la poser. Quelle est actuellement, en 2018, quelle est de ces trois concupiscences la plus dangereuse? Difficile de répondre à la question parce qu'elles sont toutes les trois liées, en fait. Il me semble qu'aujourd'hui, puisqu'il est difficile de descendre plus bas en matière d'impureté, il me semble que peut-être la plus dangereuse, c'est la concupiscence des yeux. Concupiscence des yeux, parce que la concupiscence des yeux va entraîner deux choses. Va entraîner d'une part les péchés d'impureté, donc la concupiscence de la chair, et d'autre part l'orgueil. Concupiscence des yeux, c'est le désir de tout avoir, le désir de tout posséder, le désir d'être le maître de tout. Et en fait, la concupiscence des yeux va amener au désir de devenir Dieu. C'est la racine de l'idolâtrie. Et on veut tout avoir, on veut tout posséder, concupiscence des yeux. Et c'est pour cela que contre cette concupiscence des yeux, eh bien, le bon Dieu va proposer l'aumône. Et c'est une chose qui m'a toujours beaucoup frappé. Plus les pays sont riches, moins ils font l'aumône. Plus les pays sont pauvres, plus ils font l'aumône, naturellement. Ça m'a beaucoup frappé dans les pays du tiers-monde. Par exemple, au Mexique, c'est quand même plus ou moins, je dis bien plus ou moins, un pays du tiers-monde. Même dans les quartiers très pauvres de Mexico, je suis allé plusieurs fois. Eh bien, quand on voyait une personne qui était assise sur un banc, qui présentait une casquette pour faire un peu l'aumône, en général, c'est des personnes âgées, hein, eh bien, les gens s'arrêtent de donner quelque chose. Alors qu'en France, il y a très peu de gens qui donnent l'aumône. Pourquoi? Parce que l'avarice, qui va être une conséquence de la concupiscence des yeux, l'avarice dessèche le cœur. Donc le cœur est desséché, le cœur étant desséché, le cœur n'est plus capable de lutter contre cette concupiscence des yeux. Vous voyez? Donc ici c'est expliqué avec les termes des pères. Donc l'aumône qui aime à répandre ses biens est opposé à l'avarice. On combat contre la concupiscence des yeux par l'aumône. Bon, certes, le bon Dieu ne nous demande pas de faire n'importe quoi. Hein, surtout actuellement, on nous parle tout le temps des migrants acceptés dans tout le pays. Il est évident que le bon sens a ses droits et qu'il faut commencer par aider les gens qui nous sont proches. Et donc les gens qui sont proches doivent être aidés avant les gens qui sont au contraire éloignés. Hein, donc c'est-à-dire qu'il faut aider d'abord les membres de la famille avant d'aider les voisins. Bon, il faut aider les gens qui sont autour de nous avant d'aider les gens d'étrangers. Donc il doit y avoir une préférence nationale en matière de monde. C'est du bon sens élémentaire. Okay? Et là, on voit très bien avec ce qui se passe actuellement en France, comment le gouvernement cherche à détruire complètement la loi naturelle en poussant les gens à aller aider les migrants qui, soi-disant, meurent sous la Méditerranée. Mais donc on accepte tous ces gens-là, on leur donne tout, alors qu'il y a en France des gens qui n'arrivent pas à s'en sortir avec tous les impôts, toutes les taxes, qui n'arrivent plus du tout à s'en sortir. Oui. On ne veut plus les aider, à la place de ça, on va aider les autres. Pourquoi? Parce que derrière, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent un gouvernement mondial. Donc ils veulent la destruction de la nation en tant que telle. Et puisque la famille est la cellule de base de la nation, de la société, donc ils vont détruire la famille. Donc on voit bien, qu'est-ce qui protégeait tout ça? Qu'est-ce qui protégeait la loi naturelle? Qu'est-ce qui protégeait la loi naturelle? C'était l'Église. Bon, l'Église, malheureusement, aujourd'hui, s'est réduite comme une peau de chagrin. Et donc, les hommes d'Église ne font plus leur travail. Donc, ils sont incapables de donner quelque chose qu'ils n'ont plus. Donc, comme ils ont perdu les choses surnaturelles, ils sont incapables de donner les choses surnaturelles, ils vont donner du domaine purement naturel. Vous voyez? Et c'est ce qui se passe. C'est très intéressant, par exemple, de lire, moi j'ai fait ça plusieurs fois, de lire, par exemple, les livres des missionnaires du 19e siècle. Hein? Oui, les livres des missionnaires du 19e siècle, c'était clair et net dans ces livres. Il y a énormément de livres qui ont été écrits, il y a écrit surtout au 19e sur les premiers missionnaires. Mais il fallait voir certaines choses, hein? C'était ahurissant. J'avais lu par exemple le premier missionnaire en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il risquait de se faire manger de croquer tout cru. Hein? Les premiers missionnaires des Oblats de Marie, par exemple, chez les Inuits, dans le nord du Canada, il fallait voir un petit peu les circonstances dans lesquelles ils devaient travailler. Hein. Eh bien, on sentait très bien que ces gens prenaient des risques énormes pour leur santé, pour tout, parce que le but, c'était de sauver les âmes. Sauver les âmes. Et après, quand vous relisez maintenant, on reçoit régulièrement par la pause la publicité pour les missions modernes. Les missions modernes, c'est plus du tout aider les âmes, c'est plus du tout sauver les âmes, c'est plus du tout dans l'idée des gens, c'est construire un puits, c'est donner à manger aux gens. Mais la partie spirituelle a complètement disparu. On s'en occupe plus. Oui. Bon, certes, attention, je n'ai pas dit qu'il fallait s'occuper que de l'âme et puis laisser les gens crever de faim, c'est pas ce que je veux dire. En fait, les missionnaires, ils commençaient par nourrir les gens. Oui. Mais il fallait d'abord s'occuper des âmes. Le plus important, c'est les âmes. Oui. Et donc, il me semble qu'aujourd'hui, c'est certainement la concupiscence des yeux qui travaille le plus, parce que la concupiscence des yeux va amener en remorque à la traîne derrière elle, et la concupiscence de la chair, et la concupiscence de l'orgueil. Oui. Donc, la concupiscence des yeux est bloquée par l'aumône. L'aumône est très importante au Moyen-Âge. Très importante au Moyen-Âge. C'est une notion qui est presque complètement disparue. Vous voyez? Bon, c'est pas forcément de l'argent d'ailleurs, mais C'est une question de vouloir donner une partie des choses qui ne sont nécessaires. Pas forcément des choses qui sont absolument nécessaires pour la vie, parce qu'on n'aura pas le droit, ça serait imprudent. Mais des choses qui sont quand même nécessaires, vous voyez. Il faut encore une fois, il y a eu une transformation de l'idée de l'aumône par rapport au Moyen-Âge. Vous voyez, l'aumône du Moyen-Âge, on donnait des choses qui pourraient nous servir à nous. Maintenant, autour des années 70-80, ça commençait à changer en France. On voyait très bien, l'aumône, c'était le vieux truc dont on ne veut plus, on va donner ça au curé. D'accord ? On donnait ça pour la vieille voiture ne marche plus du tout, elle est irréparable, on va en faire cadeau au prêtre. Bon, ben, c'est comme si le prêtre était une espèce de gigantesque poubelle dans laquelle on allait mettre tous les trucs dont on n'a pas besoin. C'est un peu l'idée de l'aumône aujourd'hui. Et l'aumône, ce n'est pas ça. Vous voyez, au Moyen-Âge, ça aurait été un scandale de faire cadeau de l'équivalent d'un moyen de transport, mais usagé et tout pourri, tout rouillé, à un prêtre, parce que ça aurait été considéré comme une injure, un manque de respect. Vous voyez. Donc il faut, à mon avis, puisque ces trois concupiscences, les yeux, l'orgueil et la chair, synthétisent en quelque sorte toutes les tentations du démon, je pense qu'au niveau de l'éducation des enfants, c'est surtout sur ces trois domaines qu'il faut travailler. Il faut arriver à donner aux enfants, d'une certaine façon, redonner aux enfants la compréhension de ce que c'est que l'aumône, de ce que c'est que la prière, et ce que c'est que le jeûne. Vous voyez, le jeûne, par exemple, on lutte contre la concupiscence de la chair, disent les pères, par le jeûne qui brille la sensualité. Bon, bien, apprendre aux enfants à jeûner. Vous serez surpris de voir que les enfants jeûnent beaucoup plus facilement que les adultes. Vous voyez, je me rappelle quand j'expliquais par exemple les lois du jeûne eucharistique, par exemple, je disais c'est 3 heures avant la communion pour vous laïcs, 3 heures avant la communion sans manger et 1 heure sans boire, et l'eau ne rompt pas le jeûne, ce sont les règles de Pie XII. Et bien plusieurs parents sont venus me voir en me disant: monsieur l'abbé, on ne peut pas demander 3 heures sans manger aux enfants, comme si un enfant de 10 ans ou 8 ans qui a fait sa première communion n'était pas capable de jeûner 3 heures. Enfin, c'est complètement ridicule. Et en fait, vous vous rendez compte, vous apercevez que les enfants jeûnent sans aucun problème. Bon, bien sûr, il y a des cas. Il y a des cas, une femme enceinte, par exemple, ou certaines maladies qui obligent la personne malade à s'alimenter un petit peu toutes les heures parce que sinon elle s'écroule. Bon, là, c'est autre chose. Il y a certaines dispenses qui peuvent être accordées dans certains cas. Bon, c'est comme le Saint-Curé d'Ars, par exemple, qui était d'une très grande force en matière, par exemple, du commandement qui consiste à éviter les œuvres serviles le dimanche. Il était le premier dans l'île de dispense quand la pluie menaçait la boisson. Mais il commençait par faire une messe le matin tôt pour que les moissonneurs puissent venir à la messe. Et après, il disait: bon, maintenant, vous pouvez faire vous occuper de la moisson parce qu'il va pleuvoir. Vous voyez ? Et je pense qu'il y a tout un changement dans les mentalités à préparer maintenant, pour redonner à nos enfants le sens de l'idée de la charité qui consiste à penser à l'autre avant de penser à soi-même. Hein. Donc c'est à la fois la concupiscence des yeux, donc c'est par l'aumône. L'aumône, c'est le don de soi-même, le don des choses qui sont importantes pour nous. Donc par exemple, au niveau de l'éducation des enfants, ça me semble extrêmement important. On ne va pas commencer à apprendre aux enfants à faire l'aumône quand ils ont 20 ans, c'est beaucoup trop tard. Et par exemple, avec les enfants, au niveau des jouets, vous voyez, eh bien, apprendre dans les familles aux enfants à se partager leurs jouets. Oui. Ou même avec des enfants qui sont proches de la famille, par exemple des petits cousins et cousines, déjà apprendre aux enfants, au lieu de vouloir absolument conserver leurs jouets pour eux-mêmes, leur expliquer qu'ils peuvent par eux-mêmes, par exemple, prêter un de leurs jouets qu'ils aiment bien. Il ne faut pas qu'ils prêtent un jouet qu'ils n'aiment pas, qu'ils n'utilisent plus ou qui est cassé, parce que sinon on tombe dans les travers de la charité aujourd'hui, on donne la vieille voiture au curé parce qu'elle ne roule plus. Mais il faut apprendre aux enfants que, justement, ils peuvent prêter un jouet, et un beau jouet, quelque chose qu'ils aiment, voire même à donner un de leurs jouets à un petit ami, un cousin, pour justement apprendre cet esprit de l'aumône pour précisément lutter contre la concupiscence des yeux. Et ça doit s'apprendre quand on est très jeune. Si on attend d'avoir que les adolescents aient 16-17 ans pour expliquer ces choses-là, c'est trop tard. Vous voyez, c'est la même chose aussi, ça c'est encore plus facile à expliquer, au niveau du jeûne, donc qui brise la concupiscence de la chair. Alors c'est évident qu'on ne va pas demander à un enfant de jeûner comme un adulte, mais il y a des des idées de jeûne qui doivent être introduites dans les cœurs pour aider les gens à avoir l'esprit de sacrifice. Bon, par exemple, que les mamans obligent leurs enfants à certains jours, par exemple le vendredi, en l'honneur de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, à ce qu'il y ait des sacrifices qui soient faits spontanément dans la famille, pour les petits, et provoquer déjà un peu ce sacrifice, donner des idées de sacrifice. Vous voyez ? Alors ça peut être de pas se servir d'un plat qu'on aime bien, ça peut être de manger un plat qu'on n'aime pas. Et je dirais littéralement, par exemple, que les mamans s'obligent à, de temps en temps, faire un plat que les enfants n'aiment pas trop. Bon, une fois j'avais expliqué ça à cette famille, et les parents avaient poussé du hurlement, quoi. Comment, mais c'est de... en train de... c'est un abominable individu, ou... c'est l'esprit de pénitence. Et j'ai vu des catastrophes, surtout aux États-Unis, où les enfants ne sont été habitués dans certains milieux à ne manger que ce qu'ils aiment. Et en France, ça devient la même chose maintenant. De plus en plus, ils font la même chose, c'est-à-dire qu'ils ne font que les choses qui leur plaisent. Vous voyez ? Et je me rappelle les difficultés que j'avais eues. Le Seigneur Williamson m'avait demandé de faire un camp avec des petits Américains, enfin, en vacances pour les Américains. Moi, je n'étais pas très chaud parce que je savais ce qui allait se passer. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'expliquais, je m'étais occupé de camp de jeunes, camp d'entraînement de la Sainte-Espérance pendant des années avant comme prêtre et séminariste. On n'avait pas trop de problèmes en France. J'avais donné les mêmes règles que je donnais pour les Français, je les avais données aux Américains. Une des premières règles que j'avais données, c'est « Ici, on mange qu'on vous donne. » Bon, le premier camp que j'avais fait, c'était une dame canadienne qui faisait la cuisine, qui faisait une excellente cuisine. Mais ce n'était pas forcément la cuisine auquel certains enfants étaient habitués, parce que beaucoup d'enfants américains ne mangent que des sandwichs, tout ce qu'ils mangent. Eh bien, j'avais expliqué aux enfants, on mange ce qu'on vous donne. Et j'ai vu ça, dès que la nourriture arrivait, les enfants mettaient le doigt dans la nourriture, goûtaient, ça j'aime pas. J'avais dit, je veux pas entendre cette phrase, je n'aime pas ça. Et j'expliquais que quand j'étais gamin, c'est comme ça que j'étais formé, maman reprenait, nous resservait immédiatement de la nourriture si on avait le malheur d'avoir dit « je n'aime pas ça ». Eh bien, j'ai eu des tas de problèmes parce que les enfants téléphonaient tout de suite aux parents en disant « l'abbé veut nous obliger à manger des choses que j'aime pas ». Et j'ai eu des accusations d'un bourreau d'enfants. Vous voyez ? Et pourquoi ? Parce que la plupart des parents ne comprennent pas ces choses-là. Donc si on ne donne pas cet esprit de pénitence, cet esprit de partage dans le bon sens aux enfants quand ils sont tout jeunes, eh bien encore une fois, ils sont incapables de pratiquer ces trois choses, l'aumône, le jeûne et la prière, quand ils seront plus grands. Et donc la prière, ici vous êtes texte des pères, la prière à la vaine gloire s'oppose à la vaine gloire, parce que la vaine gloire est le seul vice qui tire son origine du bien. Si j'ai fait une bonne œuvre, quelque chose de bien, et le démon va transformer la bonne chose en chose mauvaise. C'est comme, si vous voulez, si je mettais une goutte de poison dans un vin très pur ou un liquide très bon, une nourriture très bonne. Je mets une goutte de poison, c'est fini, c'est terminé, ça ne vaut plus rien. La prière à la vaine gloire est opposée à la vaine gloire parce que la vaine gloire est le seul vice qui tire son origine du bien, tandis que tous les autres mots sont les principes, le produit d'un principe mauvais. Ainsi, loin de la détruire, la vertu lui sert d'aliment. Donc plus il y a de vertu, en quelque sorte, si on ne fait pas attention à la vaine gloire, plus la vaine gloire va augmenter. Il y a donc d'autres remèdes contre la vaine gloire que la prière seule. C'est pour cela que les pères disent l'aumône contre la concupiscence des yeux, le jeûne contre la concupiscence de la chair, et l'orgueil contre la prière. Pourquoi ? Parce que la prière humilie. Ouais, rappelez-vous la parabole du pharisien et du publicain à l'entrée de l'église. Le pharisien n'est pas pardonné, le publicain est pardonné. Je pense que c'est quelque chose de très important. Il faut que les parents qui m'écoutent sur Internet pensent un petit peu dans l'éducation qu'ils donnent, surtout aux petits. Comment c'est ça quand ils ont 7-8 ans hein. Quand ils ont 7-8 ans, eh bien, il faut qu'ils commencent déjà à expliquer voilà, comment on va pratiquer dans la maison l'aumône, le jeûne et la prière. Voyez et avant, dans certains milieux un petit peu... Il y avait une certaine aisance financière dans les milieux catholiques. Les mamans faisaient attention d'amener certains jours de la semaine, elles allaient faire l'aumône aux pauvres. Donc on partait, certaines villes du Nord, c'était la tradition, au 19e, même au début du 20e. Donc les mamans prenaient un panier avec des victuailles, avec pas des choses pourries, des bonnes choses. Et puis ils avaient leur famille de pauvres. Chaque famille catholique avait 2, 3, 4 familles de pauvres qu'on allait visiter à tour de rôle pour apporter un peu d'aide. Alors, c'était parfois une aide une aide financière, mais beaucoup plus de l'aide en nature, donc de la nourriture. Et parfois, tout simplement, la maman, même d'un certain milieu, si vous voulez retoucher ses manches, prenez le balai pour laver, pour nettoyer un peu la maison du pauvre, ça n'avait pas été fait. Et bien, c'était très important qu'elle y amène ses enfants. Il y a des enfants qui ne voulaient pas y aller. Non, mais c'est tout ça, je ne vais pas. Eh bien, il fallait apprendre aux enfants, justement, là, l'importance de l'aumône. Vous voyez? L'importance de donner aux autres une partie de soi-même. Et pas simplement de donner du superflu. Vous voyez? Alors, toute la maison, là, il y a une belle phrase des pères. Toute la morale chrétienne, disent-ils, se réduit à la miséricorde et à la piété. Et c'est pour cela que le Sauveur place l'aumône en premier lieu. D'accord ? Donc, il va le dire. Quand vous faites l'aumône, que votre gauche ne sache point ce que fait votre main droite. Hein? Lorsque vous faites l'aumône, ne faites point sonner la trompette devant vous. Voici l'interprétation que les apôtres donnent de ces paroles dans le livre des canons. La droite est le peuple chrétien, qui est la droite du Christ. La gauche est le peuple qui est à gauche, notre Seigneur Jésus-Christ. Mais donc, le chrétien qui est à droite ne se laisse pas voir lorsqu'il fait l'aumône par l'infidèle qui est à gauche. Donc, ici, dans le texte qui nous préoccupe, la gauche représente la vaine gloire. La droite représente les bonnes œuvres. Donc, on a deux mains. Donc, on donne, on fait une bonne œuvre avec la main droite. Et si on ne fait pas très attention, eh bien, la main gauche va arriver et va tout détruire parce que la main gauche va amener la vaine gloire. Vous voyez ? Donc, il faut arriver à travailler de telle façon que le démon ne puisse pas, avec la main gauche, justement, détruire complètement le travail qui a été fait par la main droite. C'est ce que disent les pères. Donc, la gauche, disent-ils, nous paraît donc signifier le désir des honneurs, le désir des louanges, et la droite, l'intention d'accomplir les commandements de Dieu. Lorsque le désir de la vaine gloire se glisse dans votre âme, au moment où vous faites l'aumône, votre gauche devine les secrets de votre droite. Laissez donc votre gauche dans l'ignorance. C'est-à-dire que le désir des louanges des hommes ne trouve point de place dans votre âme. Vous voyez ? Et j'avais marqué ça dans certains. Surtout quand j'étais à la fraternité sacerdotale Saint-Pilis, au niveau des quêtes. Des gens pouvaient parfois donner des sommes importantes à la quête, mais on sentait très bien que la vaine gloire travaillait beaucoup trop, quoi. Vous voyez ? Il y a une façon, moi j'aimais bien, par exemple, je voyais par exemple des gens qui allaient par exemple mettre un billet de 5 euros, ou l'équivalent, plier, et à l'intérieur du pli, il y avait un billet plus important. Et donc, caché, les gens autour voyaient, ah ouais, ils donnent 5 euros, comment ils donnent que 5 euros, ceux-là ils exagèrent parce qu'il a pas mal d'argent, on pourrait donner un peu plus. Et en fait, à l'intérieur, il y avait un billet de 50 qui était caché. Je trouve ça magnifique. Parce que ça, c'est vraiment la véritable charité. Et on donne, on cache, on n'utilise pas la main gauche pour justement cacher, bloquer net ce désir de louange. Aussi, certaines personnes faisaient ça, par exemple, j'ai vu ça souvent, c'était assez rare, mais ça arrivait. Ou par exemple, quand ils voulaient donner en France, par exemple, il y avait ce qu'on appelait le denier du culte. Bon, denier du culte, c'est une tradition française, il n'existe pas dans d'autres pays, mais en France, ça existait. Eh bien, beaucoup de gens mettaient une enveloppe. Ils mettaient ça dans une enveloppe, pour que ça ne regardait pas les autres. Vous voyez ? Et surtout les personnes qui. Faisaient le monde comme ça, parfois ils mettaient pas l'enveloppe dans la quête pour pas que les gens puissent soupçonner qu'ils donnent beaucoup. Et donc ils mettaient un billet de 5 euros dans la quête, et puis après discrètement, à la fin de la messe, ils allaient voir le prêtre et puis ils donnaient une enveloppe. Et dans l'enveloppe, il y avait parfois une somme plus importante, c'est comme ça qu'on arrivait à vivre. Vous voyez ? Et donc, il faut, je crois, c'est très important à mon avis de favoriser cet esprit de charité dans l'âme des enfants. Parce que si on ne forme pas les enfants à la charité, elle va complètement disparaître, surtout actuellement, parce que on a l'impression, beaucoup de gens pensent, on a pu faire la charité parce que le gouvernement s'en charge. Le gouvernement aide, il y a des aides de partout les côtés pour les pauvres. Bon, d'abord, c'est pas entièrement vrai. C'est vrai qu'il y a une certaine aide, mais c'est pas du tout la même chose de donner de l'argent, si vous voulez, par une aide, parce que il y a la ville ou le maire du village qui organise une certaine aide pour les personnes en difficulté, très bien. Mais c'est pas du tout la même chose que de donner pas simplement se contenter d'appliquer la loi, mais de donner de son surplus. Et vous voyez, et quand on voit parfois des gens qui font des véritables sacrifices pour donner, pas encore une fois forcément des grosses sommes, mais on sent qu'ils faisaient un sacrifice pour donner quelque chose qu'ils aimaient. Vous voyez, et je connaissais des familles qui faisaient ça, et c'était excellent dans les familles. Par exemple, pour Noël, les mamans réunissaient les enfants en disant, voilà, on va aller visiter une famille d'allant visiter nos malades, qu'on va visiter toutes les semaines. Vous allez venir avec moi. Et dans ces familles, il y a des enfants. Eh bien, je veux que chacun d'entre vous choisissiez un jouet, on va mettre dans le panier, et vous choisirez vous-même ce jouet. Et j'espère que vous ne serez pas des imbéciles à vous faire rouler par le démon et à donner un jouet qui est cassé, que vous n'utilisez pas parce qu'il est cassé. Vous voyez, et apprenez à faire un sacrifice, donnez un jouet que vous aimez bien. Et ça, je pense que c'est excellent pour apprendre aux gens. C'est la même chose avec la vertu de pénitence pour ce qui regarde le jeûne. Bon. Apprendre aux gens à savoir se passer de temps en temps, pas tout le temps, mais il faut au moins le vendredi, au moins certains jours comme les quatre temps, etc., de savoir faire des pénitences pour se préparer, ouvrir notre cœur à la grâce de mon Dieu. D'accord ? Donc, notre Seigneur, disent les Pères, laissez donc votre gauche, la main gauche dans l'ignorance, c'est-à-dire que le désir des louanges des hommes ne trouve point de place dans votre âme. C'est en bas de la page 1. Mais notre Seigneur nous défend très sévèrement de laisser la gauche agir toute seule en nous que de lui permettre, il défend plus sévèrement de laisser la main gauche agir seule en nous que de lui permettre de se mêler aux œuvres de la droite. Vous voyez ? Donc, encore une fois, on retrouve la même idée, la veine noire détruit tous les mérites acquis par les bonnes œuvres. D'accord ? Donc, c'est pour ça, notre Seigneur utilise un autre terme, l'hypocrite. L'hypocrisie, c'est ça, c'est la veine noire. Je donne pour que les gens puissent voir que je donne. Surtout à ce moment-là, il y avait des pharisiens qui donnaient pratiquement, on sonnait la trompette devant eux, quoi, pour indiquer qu'ils arrivaient. Page 2, versets 5 et 6. Quand vous priez, continuez là-dessus, sur le même thème, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des places publiques pour être vus des hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont déjà reçu la récompense. Mais vous, quand vous priez, entrez dans votre chambre et après avoir fermé la porte, priez votre Père dans le secret. Et votre Père qui voit dans le secret vous le rendra. Arrivez à maintenir un certain... certaines discrétions dans la pratique du jeûne, la pratique de l'aumône, dans la pratique de la prière, justement, pour que notre Seigneur Jésus-Christ, le bénéfice soit pour lui et pas pour nous. Hein. Alors, ici, il y a des choses intéressantes dans le deuxième paragraphe de la page 2. L'aumône, disent les pères, est une préparation à la prière. Préparation à la prière, c'est pour cela qu'après avoir expliqué les conditions de l'aumône, le Sauveur nous donne ses instructions sur la prière. Nous pouvons aussi, par cette porte de la maison, entendre notre bouche, en ce sens que nous n'avons pas besoin d'élever bien haut la voix, parce que nous devons prier dans le silence du cœur pour trois raisons. La porte de la chambre, qui doit être fermée, représente le cœur. Notre cœur, qui doit être fermé, pour que les gens de l'extérieur ne sachent pas ce qui s'y passe. Alors voilà l'importance de ce silence du cœur, d'après les pères. Premier point, c'est page 2, c'est que Dieu qui écoute la voix du cœur ne doit pas être importuné par des cris, mais apaisé par le spectacle d'une conscience droite. Voyez, donc, faire très attention à ça, ce que ça veut dire une conscience droite, parce qu'il y a des gens qui font des pénitences, mais qui vivent tranquillement dans le péché jusqu'au cou à côté. En ce moment, c'est l'hypocrisie. C'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ appelle ces gens des hypocrites. C'est le terme qu'il va utiliser. Ne soyez pas comme les hypocrites. L'hypocrite, c'est quoi ? C'est des gens qui font pénitence, enfin qui font l'aumône en donnant l'impression qu'ils sont généreux, mais qui vivent dans le péché. Vous voyez ? Donc, faire très attention à ça. La première aumône que nous devons donner à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est évident, c'est d'abord de trouver l'état de grâce. Vous voyez ? Et moi, j'ai connu un cas comme ça, aux États-Unis, une dame que je connaissais un peu, et d'une fidèle, et qui faisait des grandes aumônes, surtout pour le pas mal avec les repris de justice, avec les problèmes des gens qui ont des problèmes de boisson, tout ça, mais elle faisait l'aumône, elle fait même des choses assez humiliantes, comme d'aller nettoyer un peu les maisons de ces gens qui ont un gros problème de boisson, parce que les maisons deviennent des torchis quand il y a un problème de boisson. Et elle faisait ça, mais elle vivait tranquillement avec le mari du voisin, de la voisine, vous voyez. Et c'était l'hypocrisie, il manquait l'essentiel. Donc là, il faut faire attention. Deuxièmement, que personne, excepté Dieu et vous, ne doit connaître l'objet de vos prières secrètes. Bon. Une certaine discrétion qu'il faut avoir dans le Seigneur, dans la prière, parce qu'il y a notre Seigneur Jésus-Christ qui voit dans le secret, sera ce qu'on demande. Troisième, c'est que votre prière bruyante, disent les pères, est un véritable empêchement pour celui qui prie à côté de vous. Il faut donc fermer la porte et résister à l'importunité des sens, afin que la prière toute spirituelle monte jusqu'au Père après avoir été formée au plus intime du cœur où l'âme prie Dieu dans le secret. C'est pourquoi il ajoute si votre Père vous le, et le, votre Père vous le rendra. Les pères de l'Église disent, et Mgr Lefebvre fait la même chose au séminaire, il faut éviter de faire des choses en matière de pénitence, en matière de prière aussi, de faire des choses qui sortent de la normale en public. Mgr Lefebvre, au séminaire, ne voulait pas, par exemple, qu'à la chapelle, on prie pas avec les bras en croix, par exemple, devant tout le monde. Par contre, vous êtes tout seul dans la chapelle, il n'y a personne qui est là, vous les priez les bras en croix à une dizaine de chapelles, très bien. Oui, vous êtes dans votre cellule, vous voulez prier une dizaine de chapelets les bras en croix, très bien, mais pas devant les autres. Oui. Il ne faut pas chercher à faire des choses qui sortent de la normale. Bon. Mais en tout cas, pour les choses qui sortent de la normale, la règle, c'était toujours avoir l'accord du directeur spirituel. L'accord du directeur spirituel. Oui. Et, parce que sinon, on peut complètement démolir toutes les bonnes œuvres parce que l'intention est viciée. Je raconte souvent une histoire que je l'ai déjà dite ici dans ce cours-là, mais au séminaire d'école, ça m'a beaucoup frappé cette histoire-là. Au séminaire d'école, on avait une récréation l'après-midi de 4h à 4h15. 4h à 4h15, c'était après les cours, donc on a travaillé en cellule, nos cours, et il devait y avoir silence dans le séminaire. De 4h à 4h15, on sonnait une cloche à 4h, de 4h à 4h15, on pouvait rompre le silence uniquement dans la salle à manger, pas à l'extérieur. Et la salle à manger, on pouvait prendre un thé ou donc il y avait du pain, un bout de thé, un peu de thé ou du café. Et au moment des fruits de saison, il y avait des pommes. En général, c'était des dons des bienfaiteurs. Donc on pouvait prendre une pomme ou quelque chose comme ça. Et puis ça durait un quart d'heure. Au bout à 4h15, ça sonnait et hop, tout de suite on arrêtait, on retournait à l'étude, sauf ceux qui étaient de service pour préparer le repas du soir. Et préparer pas le repas du soir, préparer la salle à manger pour que tout soit propre au repas du soir. Eh bien, on faisait tous. Et en général, la pénitence, une des pénitences qu'on faisait pratiquement tous pendant le carême, c'était de ne pas aller, pas prendre de goûter pendant le carême. Et je me rappelle, il y avait un séminariste qui ne voyait jamais au goûter, il ne venait jamais, il ne descendait jamais. Eh bien, son directeur spirituel était un peu inquiet justement de certaines ostentations dans sa façon de ne jamais venir au goûter. Eh bien, il lui a donné comme pénitence de carême d'aller goûter tous les jours pendant le carême. Il était seul dans le réfectoire. Et nous, on était là pour se moquer de lui. Bon, et un autre exemple qui a beaucoup frappé chez Mgr Lefebvre, par exemple, c'était les premiers vendredis du mois, on avait une nuit d'adoration. Mgr Lefebvre a interdit qu'on y passe plus d'une heure. Parce qu'il nous disait, je ne veux pas que vous y passiez toute la nuit parce que vous avez votre devoir d'État à faire. Il ne faut pas que la nuit d'adoration soit un empêchement pour faire votre devoir d'État. Donc une heure, avec l'autorisation du confesseur, deux heures, pas plus. Et on avait un séminariste que je connaissais bien, un de mes amis, qui passait toute la nuit, tout le temps. On lui a fait plusieurs remarques, enfin moi, c'est super, on lui a fait des remarques, rien à faire, il passait toute la nuit. Et puis il disait, non, je suis frais comme un gardon le lendemain, j'arrive à travailler. Eh bien, ça lui coûtait très cher parce que Monseigneur a quand même ordonné diacre. Parce que c'est quand même un séminariste moderne, modèle sur des tas de choses. Et puis il a bloqué là. Hein. Il a dit, écoutez, vous êtes incapable d'obéir. Alors je vous envoie en prieuré pendant un an, puis dans un an je vous ordonnerai prêtre si tout se passe bien. Puis ça s'est très mal passé, parce qu'en fait, quand il y avait de l'orgueil derrière, il n'a jamais été ordonné prêtre. Et donc c'est comme ça, on voit très bien que l'orgueil peut... comme une chenille qui va laisser sa bave gluante sur des choses belles, eh bien, l'orgueil peut tout détruire. Et c'est pour ça que les pères insistaient tant sur la vaine gloire. Alors, j'ai une citation de Saint Rémy qui vous suffise, donc le troisième paragraphe de la page 2, qu'il vous suffise que votre prière soit connue de celui-là seul qui pénètre jusqu'au plus secret des cœurs et qui, par là même, ne peut manquer de l'exaucer. Selon Saint François, le corps est la cellule et l'âme un ermite. C'est très beau comme expression. Le corps est la cellule et l'âme en est l'ermite. Qui demeure dans son ermitage pour prier le Seigneur et méditer sur lui. Cassien, qui avait beaucoup travaillé beaucoup étudié chez les pères du désert, c'est lui qui a fondé le monastère de Saint-Victor à Marseille. Cassien donne une autre raison. Nous devons prier en silence afin que l'intention de notre prière ne soit pas connue par nos ennemis qui pourraient la vicier. D'où l'importance de la vie d'oraison. L'importance de la vie d'oraison. Donc il faut faire attention. Il peut y avoir, au séminaire, on avait le droit de faire parfois des choses un peu extraordinaires, mais il fallait le faire avec l'accord du supérieur et toujours, il fallait que ça soit discret. Vous voyez ? Monseigneur Lefebvre, on en avait parlé une fois, on avait par exemple ce qu'on appelait la pénitence de Saint-Benoît. Qu'on appelle la prière sur les articles, que je donne souvent aux jeunes. Quand j'imagine des jeunes, parce que c'est le monde moderne, ça peut arriver, un jeune qui a une grosse tentation d'impureté et qui me dit, qu'est-ce que je peux faire pour lutter contre ces tentations d'impureté qui me pourrissent la vie. Et je reparle de cette pénitence qu'on appelle pénitence sur les articles. L'article en latin, articulus, c'est la dernière phalange des doigts. La pénitence sur les articles, c'est mettre ses deux mains à plat comme ça, sur le sol, donc le dos des doigts sur le sol, et s'agenouiller sur la dernière phalange, sur une surface dure, un parquet par exemple, ou un carrelage, et puis dire comme ça, un ou deux, je vous salue Marie. Pas plus, parce qu'après ça bloque la circulation des doigts, et c'est pas le but de la manœuvre. Ça fait un mal de chien, mais c'était très efficace contre les tentations. On appelait ça le pénitence de Saint-Benoît, parce que la tradition l'attribue à Saint-Benoît. Bon, et bien... au séminaire, on en parlait souvent, en conférence spirituelle, mais c'était impératif que ça soit fait en privé. Il n'y a pas question de faire ça en public. Donc, il fallait faire ça, on faisait ça dans notre chambre. Dans notre chambre. Alors, c'est un problème, parce que dans notre chambre, il y avait une belle moquette, alors on pouvait passer une demi-heure sur le bout des doigts, et donc on avait en général dans notre chambre un carreau de porcelaine, un peu dur, ou une planche, et puis on faisait nos pénitences là-dessus. Et c'est une bonne chose. Vous voyez, mais encore une fois, il faut que la vie de prière et la vie d'oraison doivent être unies. Vous voyez, il ne faut pas séparer la pénitence de la vie d'oraison. Les deux choses doivent travailler ensemble. Versets 7 et 8. Quand vous priez, ne multipliez pas les paroles comme les païens, qui s'imaginent que c'est par là... que c'est par la multitude de leurs paroles qu'ils seront exaucés. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Et donc là, il y a des phrases magnifiques des pères. Presque toujours, cette affaire de la prière se traite bien mieux par des gémissements que par des discours, et plus efficacement avec des larmes qu'avec des paroles. La prière véritable, disent les pères, consiste donc dans les gémissements amers de la componction et non des paroles arrangées avec art. Aussi notre Seigneur conclut-il, ne vous rendez pas semblable à eux. Et les pères comparaient ce genre de prière au roucoulement de la colombe. Parce que la colombe, quand il y a une tortureuse dans le jardin, on entend roucouler tout le temps. Et ils associaient ça à l'image de la vie d'oraison. Vous voyez ? La vie d'oraison. Parce qu'ils avaient remarqué, je ne sais pas si c'est vrai, les pères de l'église disaient que la tourterelle ou la colombe était un animal qui était considéré comme un symbole de la chasteté au Moyen-Âge. Parce que ça coupe par paire, ils restent fidèles. Entre eux pour toute leur vie. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, parce que parfois, au Moyen-Âge, j'ai raconté des choses, et puis ce n'était pas forcément vrai, parce qu'ils travaillaient avec les connaissances qu'ils avaient à ce moment-là en physiologie et en vie des animaux. Mais l'image est quand même belle. Vous voyez ? Donc, avoir ce roucoulement permanent, ce gémissement sur nos péchés et les péchés des autres. Dans la prière, notre cœur donc se tourne vers Dieu, et en excluant le désir des biens temporels, l'œil intérieur de notre âme se purifie, et ainsi rendu à sa pureté, devient capable de supporter la lumière dans toute sa clarté, et de demeurer dans cette sublime contemplation avec ce sentiment de joie qui est la perfection du bonheur. D'où l'importance de la vie d'oraison. Bon, je sais bien que beaucoup de gens ont du mal avec l'oraison, parce que souvent il faut faire plusieurs retraites avant d'y arriver. en général 3 ou 4 retraites avant de se mettre à la vie d'oraison. Mais il y a plusieurs façons de faire oraison. Vous n'êtes pas obligé de faire des oraisons extraordinaires. Pour ça, il faut faire un petit peu attention. Ce n'est pas forcément une très bonne idée de se lancer en début de vie spirituelle dans les œuvres de Saint Jean de la Croix ou de Saint Thérèse d'Avila, parce qu'elle va parler des différentes demeures de l'âme, des différents châteaux de l'âme, etc. Bon, et puis elle parle d'oraisons extraordinaires. Alors les pauvres débutants, ils ont bien du mal parce qu'ils n'arrivent pas encore. Donc il faut y aller doucement, mais vous pouvez très bien faire oraison avec des choses toutes simples. Oui. Au Moyen-Âge, les gens faisaient oraison avec les images. On disait que les garnitures de pierre des chapelles, mais surtout dans les parties qui se voyaient bien, donc tous les différents tableaux qui étaient sculptés dans les pierres, c'était catéchisme des pauvres. Catéchisme des pauvres, il y a parfois des trucs extraordinaires qu'un œil non averti ne peut pas découvrir par lui-même. Ça se voit entre autres dans les rares cathédrales du Moyen-Âge qui n'ont pas été démolies, qui n'ont pas été saccagées à la Révolution. Il y en a une comme ça par exemple à Amiens. À savoir pourquoi les révolutionnaires ne sont pas passés par Amiens. Donc le statuaire d'Amiens est impeccable, contrairement à Reims qui a été très abîmé par la guerre. Eh bien, il fallait voir certains des détails des sculptures. C'était des catéchismes extraordinaires. Voyez. Alors, il fallait vraiment aller passer un certain temps, parce que moi, je n'étais pas capable de découvrir ça par moi-même. Il fallait aller avec des guides qui connaissaient bien. Et donc, il fallait un peu sortir des sentiers battus, pas avec le guide touristique qui faisait voir aux touristes, qui n'a pas le temps d'expliquer tout ça. Et souvent, ils ne connaissaient pas. Mais il y avait parfois des guides qui étaient très au courant et qui prenaient parfois des groupes, un peu de gens qui voulaient avoir un peu plus d'explications. Et à ce moment, ils nous expliquaient les détails des statues. Alors, en général, ils nous montraient par exemple comment sur un porche, donc les deux parties du porche qui se font face, se correspondent. C'est-à-dire que la position d'une statue à gauche a son pendant dans le même niveau du porche de droite. Vous voyez, et comment tout ça doit se c'est vrai, une fausse chose qui m'a beaucoup, beaucoup frappé, j'ai souvent dit comme exemple parce que je trouvais ça magnifique. À un moment, je crois bien que c'était, je sais plus si c'est à Chartres ou à Amiens, il y a la création des anges. Donc Dieu crée les anges, puis on voit les grands archanges, donc Saint-Michel, Saint-Gabriel, Saint-Gabriel et Saint-Raphaël. Donc ils sont créés par Dieu. Et puis de l'autre côté, il y a la création des hommes. Et parmi la création des hommes, il y a la création de la Sainte Vierge. Et on voit l'ange Gabriel qui fait un clin d'œil. Moi, je ne l'ai pas remarqué, c'est le guide qui nous a remarqué, il dit, regarde, il fait un clin d'œil. Et à qui fait-il le clin d'œil? Il fait un clin d'œil à la Sainte Vierge qui était de l'autre côté au même niveau. Il fait un clin d'œil parce que c'est lui qui va devoir aller annoncer à Marie qu'elle deviendrait la Mère du Sauveur. Mais des détails comme ça, on ne les voit pas. Mais les anciens connaissaient ces choses-là. Les curés expliquaient ça devant des cathédrales, justement, et je crois que c'était très très important justement pour donner cette habitude de la contemplation. Donc vous n'êtes pas obligé de faire des contemplations extraordinaires avec des méthodes extraordinaires, vous pouvez faire des choses toutes simples, comme par exemple lire très lentement les textes évangéliques, comme par exemple justement ce texte-là de le sermon sur la montagne de Saint Matthieu, ou alors lire les textes de la Passion très lentement, c'est une façon de faire oraison. Chacun fait oraison un peu comme il veut. Il y a des gens qui changent. Quand ils sont en consolation, ils prennent un certain type d'oraison. Ils sont en désolation, bon, ben, c'est peut-être pas le moment d'aller faire une méditation sur des points de ces sujets très, très, très compliqués. J'ai souvent donné aussi comme modèle d'oraison, exemple d'oraison, certains livres avec des très belles gravures. Par exemple, les gravures de Gustave Doré. Ils sont assez connus. Je ne sais pas de quel siècle elles sont, je pense, fin 18e, début 19e, quelque chose comme ça. Les gravures de Gustave Doré qui suivent toutes les grandes images de la Bible, toutes les grandes figures de la Bible, peuvent être utilisées pour la raison, c'est extraordinaire. Il y a un livre magnifique qui a été fait par Mel Gibson aussi, à partir des images de son film sur la Passion. Et il a fait ça, je pense, avec le prêtre Célébacantiste qui assurait la messe tous les jours sur le lieu du tournage du film. Il a pris toute une série des images de son film, et parfois certaines images ne sont pas dans le film, et avec une phrase de l'évangile en dessous. Et bien c'est magnifique pour la méditation. Donc on peut comme ça suivre toute la Passion, et ensuite en dessous il y a une simple phrase et puis toutes les 20-30 pages, un chapitre complet de l'évangile en question. Et vous voyez, des choses comme ça, ça peut aider. Ça peut aider, aider parfaitement certaines personnes à méditer à partir de choses toutes simples comme ça. Vous voyez. Donc dans notre prière, disent les pères, notre cœur se tourne donc vers Dieu et en excluant le désir des biens temporels, l'œil intérieur de notre âme se purifie et ainsi rendu à la pureté, il devient capable de supporter la lumière dans toute sa clarté. Il demeurait dans cette sublime contemplation avec ce sentiment de joie qui est la perfection du bonheur. Vous voyez, une véritable méditation doit ramener la paix et la joie, les deux premiers signes de la présence du bon Dieu dans une âme. Alors, bon, la prochaine fois, on commencera à expliquer notre Père, donc là, à partir du verset 9, du chapitre 6. Donc c'est l'explication, c'est la prière du Notre Père qui va être donnée par le bon Dieu aux apôtres. Donc aujourd'hui, on est combien? On est 14, non?
On est mardi. 18.
Hein?
19,
oui, c'est ça. Donc j'en suis, hein. Donc, on va terminer par une prière. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort, assistez-nous.
Nos saints anges gardiens,
veillez sur nous.
Saint Pédis,
priez pour nous.
Saint Joseph,
priez pour nous.
Saint Thomas d'Aquin,
priez pour nous.
Saint Jérôme,
priez pour
nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Priez.